France Inter.
Ce devait être un irremplaçable document pour l'histoire, le procès filmé de Klaus Barbie. Si cette première a tenu en partie ses promesses en jetant un éclairage cru sur l'action de la Gestapo dans la région lyonnaise et les crimes contre l'humanité qui ont été commis, elle n'a toutefois pas permis de dissiper les mystères de la capture de Jean Moulin. Pas plus qu'elle n'a mis en lumière toute l'étendue des rapports entre le nazi et les services secrets américains. Certes, un rapport établi en 1983 par l'avocat Ryan, assistant spécial du ministre de la Justice états-unien, a révélé une partie de la vérité sur le recrutement de Barbie par les services américains et les efforts de ceux-ci pour empêcher le criminel de guerre de répondre de ses actes devant la justice française, alors même qu'il connaissait son passé. Une affaire qui a longtemps empoisonné les rapports entre nos deux pays. À tel point que l'avocat Ryan a même recommandé que son gouvernement présente des excuses à la France. Mais ce rapport, aussi précis et même courageux soit-il, ne répond pas à toutes les questions. Il reste en effet à savoir jusqu'où est allée la collaboration entre Barbie et la CIA. Exfiltré en Bolivie à partir de 1951, le boucher de Lyon a en effet mis son savoir-faire si particulier au service des dictateurs boliviens, multipliant les exactions, constituant un escadron de la mort qui a semé la terreur dans le pays, participant au trop fameux plan Condor et s'acoquinant même avec les barons de la drogue. Barbie, était-il en service commandé? Était-il toujours un agent de la CIA? Sur toutes ces questions, M. X propose ses réponses.
France Inter, rendez-vous avec X.
Une chose est certaine, et jusqu'au bout, jusqu'à sa mort dans une prison lyonnaise en 1989, Klaus Barbie est demeuré un authentique nazi.
Oui, c'est-à-dire sans rien renier de ses convictions.
Sûrement, et en affirmant, j'étais un soldat.
Ah oui, facile ça, donc je n'ai fait qu'obéir.
Oui, c'est ça, bien sûr, ça ne tient pas, et ça ne justifie pas les crimes de guerre. Et, par exemple, la déportation des enfants juifs d'Izieux, ou bien les massacres d'otages.
Oui. D'où vient Barbie ?
Vous voulez parler de ses états de service, si j'ose dire ?
Bah oui, ses origines aussi.
Il est né juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, dans la banlieue de Bonn. Son père, comme beaucoup d'autres Allemands de sa génération, a été mobilisé et a même été blessé. Dès la fin de ses études secondaires, le jeune Barbie rejoint les jeunesses hitlériennes.
Donc c'est-à-dire peu de temps après l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir.
Oui. Et un an plus tard, il s'engage dans les SS et ne tarde pas à être recruté par l'ESD, le service de sécurité des nazis. Puis il est affecté à la Gestapo.
Oui, bon, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est donc un flic plus qu'un soldat.
Incontestablement. Ouais. Donc, juste avant la guerre, il est tout particulièrement chargé de surveiller les pacifistes et les libéraux dans le secteur de Dortmund. Il doit donner satisfaction à ses maîtres puisqu'il accède au grade de sous-lieutenant.
Alors, lorsque la guerre arrive ?
Il est d'abord envoyé pour quelques mois à Amsterdam où il est nommé au bureau de l'émigration juive.
C'est-à-dire qu'il va prendre sa part dans la déportation des juifs hollandais.
Mais il faut rappeler que la Hollande est l'un des pays européens où la communauté juive a été la plus durement frappée. Et effectivement, Barbie va avoir une responsabilité certaine dans les premières déportations. Après un bref passage en Belgique, il se retrouve en poste à Gex, à la frontière franco-suisse, puis à Dijon. Et c'est là, semble-t-il, qu'il fait la connaissance d'un certain Kurt Merck, qui est alors officier des services de renseignement de l'armée allemande.
Ah, c'est l'abwehr de l'amiral Canaris.
Oui, ouais. Et si je mentionne cette rencontre, c'est que ce Merck jouera plus tard un rôle dans la vie de Barbie, pour son malheur. Enfin, nous en reparlerons. La suite, un petit peu plus floue.
C'est-à-dire
Klaus Barbie aurait été envoyé quelque temps sur le front de l'Est. Là, c'est les Einsatzgruppen, des commandos évoluant derrière les lignes allemandes et chargés d'assassiner juifs et communistes par centaines de milliers. Il aurait été initié aux techniques d'interrogatoire.
C'est la torture, vous voulez dire.
Bien sûr. Ensuite, il revient en France après l'invasion de la zone libre. Et il se fixe à Lyon. Le lieutenant Barbie cumule le poste de chef de la section de renseignement du RSHA, l'office central de sécurité du Reich, dirigé par le sinistre Reinhard Heydrich, et le poste de patron de la Gestapo locale. À ce titre, c'est lui qui organise les premières déportations de juifs lyonnais. Il est en particulier le coordonnateur de la rafle, opérée au sein de l'Union générale des juifs de France en février 1943.
Et puis il y a aussi la rafle des enfants juifs d'Izieux.
Oui, en avril 1944. Une quarantaine de gosses qui avaient, grâce au courage de quelques adultes, échappé jusque-là aux nazis. Il faudra encore parler des massacres perpétrés par les SS après le débarquement des troupes alliées en Provence. Des dizaines de prisonniers extraits de leurs cachots et froidement exécutés. Jusqu'au bout, Barbie s'est acharné. Je crois que le dernier convoi de déportés vers les camps a eu lieu en août 1944.
Oui, près de la fin. Puis il faut parler de l'arrestation de Jean Moulin et du piège de Caluire.
Bien sûr, mais si vous le voulez bien, on y reviendra longuement plus tard. Vers la fin, donc, août 1944, Barbie part dans les fourgons de l'armée allemande qui reflue vers le nord-est. Mais dans un affrontement avec des maquisards dans la banlieue lyonnaise, il est blessé et il doit être rapatrié en Allemagne où on lui remet ses galons de capitaine.
Alors là, il reprend un service actif ?
Il me semble, en effet, oui, mais avant même l'effondrement du Troisième Reich, il troque son uniforme d'officier SS contre des habits civils et prend soin de se débarrasser de ses armes.
Alors que fait-il ?
Une nouvelle fois, on navigue dans le plus grand flou. Ce qui est certain, par contre, c'est que dès le mois de décembre 1944, son nom figure sur la liste établie par la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre. Et on retrouvera aussi son nom quelques mois plus tard sur un autre fichier, le CROSCAS, un fichier des criminels de guerre recensé par le grand quartier général des forces alliées.
Le sait-il, lui, qu'il figure sur ces listes ?
Très certainement. D'abord parce qu'il ne peut pas se faire beaucoup d'illusions sur le sort qui lui sera réservé. Ensuite parce que Barbie, on le verra plus tard, a peut-être conservé des liens avec quelques-uns de ses informateurs.
Alors dans ces conditions, il doit se cacher, non ?
C'est exact, oui. C'était pas trop difficile, étant donné le désordre qui règne alors dans l'Allemagne vaincue. Il erre donc sous différents noms d'emprunt, prétend, quand on l'interroge, n'avoir été qu'un simple soldat, voyage d'une zone d'occupation à l'autre pour échapper aux recherches et vit de petits vols. Il est aussi aidé, c'est sûr, par d'anciens nazis comme lui qui sont passés à travers les mailles du filet et qui se sont regroupés au sein d'une association clandestine.
C'est-à-dire une association d'anciens SS ?
Oui, ces gens-là pensent assez naïvement que la population allemande se soulèvera contre les occupants. Le peuple allemand est bien trop épuisé pour songer à une revanche. Alors ces nostalgiques du Troisième Reich se contentent de fabriquer de faux papiers et de faux certificats de démobilisation de la Wehrmacht.
Oui, ça marchera pour certains d'entre eux.
Oh, hein. C'est certain, oui. D'anciens officiers SS se referont ainsi une virginité et quelques-uns d'entre eux pourront vivre tranquillement sous une autre identité. Toutefois, les plus malins ou les plus revanchards, comme vous voudrez, pensent déjà à toute autre chose. La guerre froide a alors commencé. Et pour ces hommes, le communisme reste l'ennemi numéro un. Alors pourquoi ne mettraient-ils pas au service des anglo-saxons leur expérience, mais aussi leur carnet d'adresses?
C'est-à-dire des adresses
Les adresses de ceux qui travaillaient pour eux, collabos, agents doubles, espions, des gens qui sont restés en place et qui ne peuvent pas refuser de donner un coup de main à leurs anciens maîtres.
Mmh. Oui, chantage à la dénonciation.
Forcément, oui. C'est ainsi que ces nazis, spécialistes du renseignement, sont susceptibles de réactiver leur réseau, même au-delà de ce rideau de fer qui est en train de tomber sur l'Europe. C'est très intéressant pour les services occidentaux dont le travail va être presque exclusivement tourné contre l'Est.
Ouais. C'est-à-dire l'ancien allié.
Oui, hein, oui, c'est pourquoi la chasse aux anciens nazis et aux criminels de guerre passe peu à peu au second plan.
Et qu'on va engager des types comme Barbie.
Bien sûr. Mmh. J'ajoute quand même que certains de ces prétendus spécialistes ont parfois abusé leurs employeurs.
Ah, ce qui signifie, hein?
Ils ont inventé des réseaux qui n'existaient pas et donc fourni des informations qu'ils ont purement et simplement inventées. Ça n'a pas fait illusion trop longtemps, mais au moins pendant tous ces mois ou même toutes ces années où ils ont apporté de fausses informations au service de l'Ouest, on les a laissés tranquilles et ils ont été grassement payés.
Est-ce que ça a été le cas de Barbie?
Difficile à dire. Selon certains des officiers qui l'ont employé, Barbie était une source d'informations très précieuse. Pour d'autres, c'était un type qui pensait surtout à gagner le maximum d'argent et qui en demandait toujours plus.
Alors qu'il n'était pas fiable.
Oui. Et puis au fond, peu importe. L'essentiel, c'est que Barbie, authentique criminel de guerre, a pu réussir à travailler pour les Américains. Et en particulier sans que jamais on ne lui reproche son passé. Et surtout, en refusant systématiquement de le livrer aux autorités françaises qui l'ont condamné à mort par contumace.
Ça veut quand même dire que les services américains avaient de bien bonnes raisons pour continuer à l'employer.
Ça me paraît évident, oui.
Ce qui contredit ce que vous m'avez dit précédemment sur le degré de fiabilité de Barbie.
Non, c'est pas forcément contradictoire. Je vous explique. On engage un type qui affirme pouvoir vous fournir d'excellentes informations, et il en donne assez rapidement la preuve. C'est seulement après que ça peut poser des problèmes.
Il faut m'expliquer, là.
Ensuite, si ces sources d'informations starissent, ou s'il n'a plus de contact avec ses anciens agents, cet individu peut être tenté d'inventer.
Ouais, mais s'il est convaincu de mensonge, on peut le virer, non?
Pas si facile que ça. Car notre homme connaît maintenant parfaitement le fonctionnement des services et les objectifs qu'il poursuivent. Et il devient dangereux de le lâcher dans la nature.
Attendez, parce qu'il pourrait aller raconter à l'extérieur tout ce qu'il sait?
Exactement. Alors, vous voyez, c'est une sorte de piège. Un morceau de sparadrap dont on ne peut plus se débarrasser.
Je vois que vous avez lu Tintin.
Mais naturellement, je n'ai pas encore tout à fait 77 ans, mais il y a bien longtemps que j'ai dépassé mes 7 ans. Non, soyons sérieux, surtout dans une affaire aussi grave. Ce que je viens de vous expliquer signifie que lorsque Barbie est approché par les Américains, il leur fournit d'emblée une information de première importance.
Swinging in the southern breeze. strange and bitter crop.
France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Rémi Coffer, professeur à l'Institut français d'études politiques, est l'un de nos meilleurs spécialistes du renseignement. En 2003, il a consacré un article à Klaus Barbie dans la revue Historia. J'en extrais ces quelques lignes. Entre son arrivée à Lyon à la fin 1942 et sa fuite précipitée devant les armées alliées à l'été 44, c'est lui qui avait été le chasseur. 20 mois de battues, de courses-poursuites, de pièges, de traques. Ah, l'enivrante sensation de surprendre son gibier au bercail, le plaisir de lire l'angoisse sur leurs visages, leurs lèvres tremblantes, leurs genoux flagellants. Parce que lui, l'Obersturmführer SS matricule 272-284, spécimen éminent de la race des seigneurs, ne craignait ni Dieu ni diable. Par bravade, on le voyait souvent parcourir les rues lyonnaises flanquées de 3 ou 4 hommes, pas plus. Quand l'envie le prenait, c'est seul, et en civil, qu'il quittait à pied son quartier général de l'hôtel Terminus, puis de l'école de santé, pour aller déjeuner dans un des restaurants du voisinage. Et plus loin, Coffer poursuit. Brutal, sadique, dénué de tout scrupule, c'était Klaus Barbie tel qu'en lui-même, un pur produit du fanatisme idéologique nazi, avec son cortège de racisme, de mépris envers les êtres inférieurs. Encore qu'on puisse imaginer une explication moins glorieuse à ce comportement, la crainte d'une mutation toujours possible pour manque de zèle sur le front russe. C'est qu'elle avait ses charmes, la vieille cité rhodanienne. Ces messieurs de la SS pouvaient s'y offrir de bons dîners aux grillons, aux glaces, aux balbos, aux lapins blancs, s'enivrer de vin fin et s'amuser avec des françaises amies, telle cette soi-disant mademoiselle Odette, dont il avait fait sa maîtresse attitrée et qui se prénommait en réalité Antoinette.
Avant de voir plus précisément quelle est la nature de l'information que Barbie va proposer aux services américains, voyons d'abord de plus près comment s'est opéré son recrutement.
Allez-y.
En 1946, le bourreau de Lyon est identifié par un agent double infiltré dans cette organisation d'anciens nazis dont je vous ai parlé.
Alors, il est arrêté.
Oui, par les Anglais. Une expérience dont il gardera un très très mauvais souvenir.
Et pourquoi?
Je pense que les Anglais n'ont sans doute pas été très tendres avec ce personnage sulfureux.
Ouais, bref, ils l'ont un peu malmené.
Ouais, enfin, c'est ce que je crois. Toutefois, alors que selon toute vraisemblance, Barbie aurait dû être remis aux Français, il parvient à s'évader et replonge aussitôt dans la clandestinité. Quelques mois plus tard, il est approché par un agent britannique qui lui propose de travailler pour lui.
Tenez, cet agent sait qui est Barbie ?
Oui, ça veut dire que les services britanniques ne sont pas beaucoup plus scrupuleux que leurs homologues américains, dès qu'il s'agit de lutter contre le communisme. Maintenant, Barbie, qui, je vous l'ai dit, a gardé un souvenir amer de son passage chez les Anglais, refuse la proposition qui lui est faite et rompt aussitôt avec cet agent britannique.
Il a peut-être peur de tomber dans un piège.
C'est très possible. Quoi qu'il en soit, il reprend sa vie d'errance et de clandestinité. Et au début de l'année 1947, il échappe de très peu à une nouvelle arrestation.
Dans quelles conditions ?
Les autorités d'occupation veulent en finir avec les organisations d'anciens nazis. Et il lance une grande rafle. Barbie s'échappe en sautant par une fenêtre.
Ouais. Il a décidément beaucoup de chance.
N'est-ce pas ? Et bientôt, il va bénéficier d'un autre coup de chance. Peu après, il rencontre dans une gare ce Kurt Merck dont je vous ai parlé.
C'est-à-dire cet officier de l'Abwehr qu'il a connu à Dijon, c'est
oui, ça, avec lequel il a travaillé à démanteler les réseaux de résistants. Merck et Barbie discutent, et l'ancien officier de l'Abwehr finit par dire qu'il travaille désormais pour les Américains.
Ouais. Les services de renseignement américains.
En effet, oui.
Au fait, cette rencontre est-elle seulement le fruit du hasard ?
Vous savez combien je crois peu au hasard.
Oui.
Enfin, dans ce cas précis, je ne peux rien dire de plus. Merck, qui connaît bien son Barbie, ne tarde pas à lui proposer de rejoindre son réseau.
Pardonnez-moi alors de vous reposer une nouvelle fois cette question, mais Merck, lui, sait-il que Barbie est un criminel de guerre recherché en tant que tel ?
Ça me paraît évident, même s'il ne connaît pas tous les détails de l'abominable carrière de Barbie.
Deuxième question, en faisant cette proposition à Barbie, a-t-il l'aval de ses employeurs américains ?
Pas encore, non. Mais il ne tarde pas à en informer son agent traitant, un certain Tyler.
Soyez un peu plus précis, là. Ce service américain, c'est quoi exactement ?
Le CIC, le Counter Intelligence Corps, c'est-à-dire le service de contre-espionnage de l'armée états-unienne.
Et que fait là ce CIC en Allemagne ?
Bah attendez, avant d'aller plus loin, je dois vous dire qu'un service secret peut en cacher un autre.
Oui, c'est un peu obscur tout ça. Hein.
Oh, pas tant que ça. En réalité, un organisme plus discret, plus secret, coiffe certaines des activités du CIC. C'est l'OPC, autrement dit Office of Policy Coordination. Ce service secret est placé sous l'autorité d'un certain Frank Wissner, l'un des grands sorciers de la future CIA, un ancien de l'OSS. Un dur, farouchement anticommuniste, et qui sera le véritable créateur des réseaux Gladiot dont je vous ai souvent parlé.
Mais quels sont les rapports entre ces deux services de renseignement-là ?
Bizarre. Beaucoup d'agents du CIC ignorent par exemple qu'ils travaillent en fait pour l'OPC de Wissner. Et parfois, les deux organismes entreront en conflit.
Des rivaux, quoi.
Oui. Ouais. En tout cas, les objectifs de l'OPC, et donc ceux des agents du CIC qui en font partie malgré eux, sont clairs. C'est à eux que seront confiées les missions les plus délicates et même les actions anticommunistes musclées. Et sur le plan du renseignement pur, il leur faut d'abord pénétrer la zone soviétique d'occupation.
L'Allemagne.
Bien sûr. Ensuite, ces agents doivent noyauter le Parti communiste bavarois. Et enfin, et ce n'est pas le moins étonnant, il est question d'infiltrer les services secrets français présents en Allemagne occidentale.
Une action menée donc contre un service allié, enfin allié en principe en tout cas.
Effectivement. Enfin, ces ultras du renseignement sont persuadés que nos services sont noyautés par les soviétiques.
À cause du poids du Parti communiste en France ?
Et de la participation de ministres communistes au premier gouvernement de la 4e République.
Ça ne durera pas longtemps. Hein,
ouais, donc, pour les Américains, il est indispensable de surveiller et d'espionner les services français en Allemagne, ceux qui sont le plus susceptibles d'être infiltrés.
À cause de la partition de Berlin, par exemple.
Et donc, oui, de la coexistence géographique avec les soviétiques.
Ouais. Alors, l'intérêt de Barbie pour ces Américains, qu'est-ce que c'est ?
Bah Barbie est d'abord l'homme qui a arrêté Jean Moulin.
Ah, c'est une référence.
Eh ben oui, aussi choquant que cela apparaisse, Moulin qui, pour Barbie, mais les agents de l'OPC ne sont pas loin de le croire, était un homme très proche des communistes. Barbie ira même jusqu'à prétendre que s'il avait vécu, Moulin se serait débarrassé du général de Gaulle.
C'est complètement absurde.
Je suis d'accord avec vous. Mais remarquez bien que cette question de l'inféodation de Moulin au Parti communiste et même au KGB reviendra très souvent sur le tapis. Et il n'y a pas encore si longtemps.
Et vous n'y croyez pas ?
Absolument pas. Certes, Moulin était un homme de gauche, qui avait de nombreux amis qui avaient appartenu au gouvernement de Front Populaire. Toutefois, en faire un agent du KGB, non. Non, c'est de la calomnie. Et ce n'est pas tout à fait innocent. Mais encore une fois, nous en parlerons un peu plus tard dans la suite de notre entretien.
D'accord, je note.
Ouais.
Mais vous avez dit qu'en approchant les Américains, Barbie leur avait fourni une information de première importance. Alors, c'était ça les circonstances de l'arrestation de Jean Moulin ou les secrets qu'elle dissimulait ?
Non, il s'agissait d'une douloureuse affaire que j'ai évoquée ici même il y a quelques années. L'affaire Boulanger, du nom de code de cet agent double.
Ouais, je me souviens des faits de cette histoire dans les grandes lignes. Hein. Enfin, ça mérite peut-être quelques précisions.
Oh, volontiers. Mais je résume à grands traits. Hein. Boulanger, continuons de l'appeler ainsi, était un franco-allemand membre de l'appareil clandestin du Comintern. Ouais,
l'organisation internationale communiste clandestine.
Voilà, c'est ça. Donc ce type avait été arrêté par la Gestapo lors de l'occupation de l'Alsace par l'armée allemande. Et les nazis, qui connaissaient bien son pédigré, l'ont retourné et l'ont relâché dans la nature.
Pourquoi ? Afin qu'il trahisse les siens ?
Évidemment. Pour les Allemands, avoir un homme à eux au sein de l'appareil clandestin du communisme international, ce n'était pas rien. Et la suite a semblé leur donner raison.
Ah, il a dit « sembler ». Sembler seulement ?
Oui, même si, grâce à cette affaire, Barbie a pu, de son point de vue, bien sûr, opérer une de ses rafles les plus fructueuses.
Trying to titrate.
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Avant d'écouter la suite de l'histoire de ce mystérieux boulanger, un mot sur un homme qui a joué un rôle décisif dans le destin de Klaus Barbie, Kurt Merck. Son ancien officier traitant, l'américain d'origine allemande Erhard Dambringhaus, en parle ainsi. L'âme même du réseau était indubitablement Merck. Il avait engagé tout le monde, y compris Barbie, et le nom de code de l'organisation était celui de son pseudonyme, Walter Bureau Peterson. Au demeurant, les services secrets américains avaient pris la sage précaution de ne mettre à la tête de leur réseau de correspondants que des non-SS, n'ayant pas commis de crimes de guerre, ce qui leur permettait en plus de garder la conscience tranquille, libre à ces hommes propres et de bonne réputation, s'ils le voulaient, de recruter ensuite des criminels. C'était leur affaire. Et l'honneur des Américains demeurait sauf. Il faut dire que le comportement de Merck semblait toujours correct, même lorsqu'il faisait des choses répréhensibles. Ses succès dans le contre-espionnage allemand étaient toujours dus à son intelligence et à sa finesse, contrairement à ceux de Barbie, extorqués habituellement par la violence et la torture. Les mémoires de Dambringhaus ont été publiées en France aux éditions Pygmalion.
En raison de ses fonctions au sein du Comintern, et certainement sur ordre de Moscou, Boulanger est affecté à l'état-major des francs-tireurs et partisans de la zone sud, implantée à Lyon. Or, en mai 1944, donc peu de temps avant la libération de la France, la Gestapo décapite la tête de ces FTP de la zone sud. Il y a très peu de rescapés.
Et parmi lesquels Boulanger.
Oui, Boulanger qui a miraculeusement échappé à l'arrestation.
Et qui est immédiatement soupçonné par ses camarades.
Bah forcément, ouais. Car il est évident qu'il y a eu trahison et que les hommes de Barbie ont agi en toute connaissance de cause. Et la suite est encore plus troublante. Après cette rafle, Boulanger disparaît.
Il ne reprend pas contact avec la résistance.
Non. Et quand longtemps après, en 1946, je crois, sous la pression des survivants du réseau, le Parti communiste se décide enfin à enquêter sur cette étrange affaire. Boulanger est retrouvé. Mmh. Il est alors, écoutez bien, sous-officier dans les troupes françaises d'occupation en Allemagne. Et il est en même temps agent auxiliaire de la Sûreté.
La Sûreté, la police française.
Oui. Ouais.
Vous avez dit sous la pression des survivants. Est-ce que ça veut dire que la direction du PCF, enfin, n'avait pas très envie que l'on retrouve Boulanger, qu'on l'interroge?
Bah, je le pense, en effet. Et tous les militants communistes qui s'intéresseront à cette affaire le paieront cher. Ils seront virés du parti et l'un d'eux sera même victime d'un curieux accident d'automobile. Et un autre sera dénoncé comme espion.
Alors, on ne tenait pas à ce que la vérité éclate?
C'est certain. Et c'est la clé de cette histoire. Boulanger, agent communiste retourné, n'a en effet jamais cessé d'obéir à Moscou. Et c'est sur ordre qu'il a trahi ses camarades FTP.
Ouais, sur ordre, c'est-à-dire?
Bah, sur ordre de Staline. Ça s'explique. Même si c'est parfaitement cynique et immoral, le maître du Kremlin sait très bien que le partage de l'Europe se fera en fonction des avancées militaires des uns et des autres. Or, il a peur que l'insurrection programmée par les FTP, en portant des coups très durs à l'armée allemande, ne permette aux troupes alliées de progresser trop vite sur le front ouest.
Ah oui. Alors par conséquent, pour faire échec aux FTP, il les trahit.
Je le crois, oui. Ces FTP de la zone sud qui étaient particulièrement bien implantés et prêts à passer à l'action dès l'annonce du débarquement allié.
C'est épouvantable. Hein.
Ça, je suis bien d'accord avec vous. Alors, si vous voulez bien, revenons à Barbie.
Ouais.
Il est très probable que le gestapiste avait percé une partie de la vérité. Et lorsqu'il a été question pour lui de travailler pour les services américains, il leur a sans doute raconté cette histoire qui a dû les intéresser au plus haut point.
Une sorte de cadeau d'entrée?
On peut le penser.
Autre point intéressant, là, ce boulanger, avez-vous dit, se trouvait en Allemagne après-guerre. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer que Barbie a repris contact avec lui?
Et pourquoi pas?
Et il aurait fait partie de ces informateurs de Barbie dont vous avez parlé, là ?
C'est possible. Et le traître Boulanger pouvait difficilement refuser aux nazis de lui donner quelques tuyaux sur l'activité des Français en Allemagne occupée.
Eh bien, un mot aussi sur ce qu'est devenu ce Boulanger.
Ah, volontiers. Il finit par être arrêté et transféré en France. Accusé de trahison, il adopte un curieux système de défense en se proclamant citoyen allemand.
Mais on a dit qu'il était en effet franco-allemand. Hein.
Par conséquent, il a soutenu qu'en trahissant les FTP, il n'avait fait que rendre service à sa patrie d'origine.
Et ça a marché, ça ?
Bon, il faut simplement observer que la peine à laquelle il a été condamné a été relativement légère, eu égard à la gravité de ses actes. Il ne faut pas oublier que beaucoup des membres de son réseau sont morts en déportation. Et quand il a été libéré, il est reparti en Allemagne. Et là, une fois de plus, il a disparu.
Et à votre avis, où est-il allé ?
Bon, je suis persuadé qu'il est passé en RDA.
Ouais, l'Allemagne de l'Est.
Ouais. Oui, ce qui est une nouvelle preuve de son allégeance au service de l'Est. Les dirigeants communistes n'auraient pas accordé l'hospitalité à un agent nazi.
Ouais. Fermons donc cette longue parenthèse hein, et revenons au recrutement de Barbie par les Américains.
Ben, grâce à son ami Merck.
C'est ça.
Bon, en dehors même des informations qu'il offre à ses futurs employeurs du CIC, le Counter-Intelligence Corps, qui sert parfois de faunet à cette machine de guerre anticommuniste, l'OPC, Barbie fait d'emblée une excellente impression.
Ah oui. Ben,
à tel point que son premier officier traitant, Robert Taylor, le décrit dans un rapport comme un homme honnête, à la fois intellectuellement et personnellement.
Pourtant, François Taylor sait que c'est un nazi recherché par les autorités françaises et fiché comme criminel de guerre.
Sans aucun doute. Mais toujours dans ce même rapport, Taylor, qui se félicite d'avoir affaire à un anticommuniste résolu, écrit que Barbie est un nazi idéaliste dont les idées ont été trahies par les hitlériens au pouvoir.
Mais ce type est un naïf ou c'est un menteur ?
Bah, écoutez, c'est un Américain. Enfin, franchement, je n'en sais rien. Non. En tout cas, il déclare aussitôt à son nouvel agent que son recrutement par le CIC le met désormais à l'abri des poursuites qui pourraient être engagées contre lui.
Ah ouais. D'un jour à l'autre, Barbie n'est plus un clandestin, c'est
et
ça.
Il n'a plus besoin d'utiliser des noms d'emprunt pour dissimuler sa véritable identité.
Et en quoi consiste son travail ?
Grâce à son passé en France, il est chargé, au sein du réseau de Merck, d'espionner les agents français présents en Allemagne.
Des Français, m'avez-vous dit, soupçonnés par les Américains d'être noyautés par les Soviétiques, c'est
et
ça ?
Et pour accomplir cette besogne, Barbie utilise d'anciens SS passés au service de nos compatriotes.
Ah, ce qui signifie aussi que les agents français n'ont éprouvé aucun scrupule à employer d'anciens nazis.
Bah, c'est évident, même si, à ma connaissance, nous n'avons pas recruté des criminels de guerre aussi compromis Barbie.
Ce dernier alors, peut alors estimer en avoir fini avec son terrible passé.
Ah oui, mais il redoute toujours les Français qui vont à plusieurs reprises demander aux Américains de le leur livrer et qui peuvent, pourquoi pas, essayer de l'enlever.
Parce qu'à Paris, on sait pertinemment que Barbie est passé au service des Américains.
Oui, mais ceux-ci font la sourde oreille ou mentent tout simplement en affirmant qu'ils ne savent pas où se trouve Barbie. Toutefois, le danger peut aussi venir de ses services qui l'emploient.
Expliquez là.
Ce Taylor a avalé content les confidences de Barbie sur ses activités en France.
Oh, oui, afin de le croire.
C'est possible. Il en sera de même pour son successeur. Mais les demandes répétées des Français commencent à mettre la puce à l'oreille à quelques-uns des officiers du CIC. Ces militaires demandent donc à l'interroger. Mais ça n'ira pas très loin. Étant donné les excellents résultats obtenus par Barbie, il est décidé de lui fiche la paix.
Trop précieux.
Oui, plus étonnant encore. Les Américains permettent à des enquêteurs français de venir l'interroger à condition que la France renonce à demander son extradition.
Ah, les Américains reconnaissent donc maintenant qu'ils emploient Barbie.
C'est exact.
Alors cet interrogatoire ?
Il ne porte que sur l'arrestation de Jean Moulin. Enfin, si vous bien, on en reparlera un petit peu plus tard. Et il est absolument interdit aux policiers français d'interroger Barbie sur ses activités après la guerre.
Ça se comprend. Les Américains ne veulent pas que les Français apprennent qu'ils font l'objet de manœuvres d'espionnage de la part de leurs alliés.
En effet. Toutefois, malgré la protection dont jouit Barbie, les choses commencent à se gâter pour lui. En France, la presse commence à s'intéresser de plus en plus à lui. Des témoignages de résistants lyonnais victimes de ses exactions sont publiés. Et on demande à nouveau son extradition. Ce que refusent toujours les Américains qui vont d'ailleurs bientôt déclarer qu'ils ont perdu purement et simplement sa trace.
Encore un mensonge ?
Autre souci pour lui, l'attitude de son ami Kurt Merck. Au fil du temps, les relations entre les deux hommes se distendent. Barbie tire la couverture à lui et s'attribue tous les succès obtenus par le réseau. Alors un jour, Merck va trouver son officier traitant, un certain Dabrin Haus, et lui révèle tout ce qu'il sait du passé criminel de Barbie. Des renseignements qu'il a obtenus de la bouche même de Barbie.
Réaction ?
L'homme qui est honnête tombe des nues. Et ce Dabrin Haus n'a rien de plus pressé que d'alerter ses supérieurs au quartier général de Munich. Dès lors, il est persuadé que Barbie va être arrêté et sans doute remis aux autorités françaises. Mais sa grande surprise, rien ne se passe comme il avait prévu. Bien au contraire. On lui demande de continuer à travailler avec Barbie et de taire ce qu'il a appris. Mieux, on lui ordonne de mentir si jamais les Français lui demandent où se trouve Klaus Barbie.
Ce qu'il fera.
Évidemment. Ce brave homme est d'abord un militaire.
Ça veut dire en tout cas que les Américains ne peuvent plus prétendre qu'ils ignoraient qui était réellement Barbie. Hein. Parce que j'imagine que ces informations étaient sans doute parvenues au plus haut niveau.
Absolument. Et bientôt les Américains vont se rendre compte que la présence de ce Barbie devient de plus en plus embarrassante. C'est alors à la fin de l'année 50 qu'on va envisager de l'exfiltrer.
Oui, vers l'Amérique du Sud.
Oui, en empruntant la célèbre Ratline.
La route des rats.
Qui avait déjà été empruntée par des centaines d'anciens nazis. Mais j'y reviendrai dans notre prochain entretien, si vous le voulez. Avant de nous quitter, un dernier mot sur ce Merck.
Merck qui a trahi Barbie.
On peut voir les choses comme ça. Merck qui représentait désormais un grand danger pour son ancien ami Barbie. Eh bien, ce Merck est mort peu après dans des circonstances très curieuses.
Allez, racontez-moi.
Officiellement, cet homme d'une trentaine d'années est mort d'un arrêt cardiaque à la suite d'une piqûre de guêpe. Mais des témoins affirment, eux, qu'il avait un petit trou bleu foncé derrière une oreille. Exactement la trace que laisse une munition de petit calibre.
C'est Barbie qui l'a assassiné ?
Pas directement, non. Barbie était déjà à l'abri en Amérique du Sud, mais il n'a sans doute eu aucun mal pour trouver un homme de main capable d'exécuter ce contrat.
À samedi prochain, pour un nouvel entretien consacré à Klaus Barbie, nous évoquerons longuement l'affaire Jean Moulin, mais aussi les activités du criminel en Amérique du Sud.
Merci Patrick Pénaud, c'était Rendez-vous avec X, une nouvelle diffusion du 25 septembre 2004. Et maintenant, retrouvons Charlotte Perry pour Des Vies Françaises. Cette semaine, rencontre avec Sylvette. À 71 ans, Sylvette revient sur sa vie, quand elle était bonne à tout faire, chez des patrons à Châtellerault. Elle a gardé un plaisir du savoir-recevoir qu'elle perpétue chez elle, depuis qu'elle a décidé de ne plus subir.
Allez, en route. Alors ici, vous êtes dans la plus belle avenue de Châtellerault parce que c'est la plus ancienne. Oh, mais chérie!
Comment ça va? J'ai envie de voir samedi.
Ah oui, mais téléphone-moi avant, hein, si je t'ai
oui,
pas...
Oui, oui,
parce que je suppose que je suis avec mon amant, hein.
Oh.
Alors ici, c'est la maison du bon accueil. Pour venir pour le plaisir de prendre un bon café, de discuter, de rire. Allez, entrez. Non, mais il faut rire. Attendez, je vais enlever les talons. C'est ici que je vais te recevoir.
Ah, le café est prêt?
Oui. Alors moi, je faisais comme chez moi, chez mes patrons, chez ma maman.
Le savoir recevoir, c'est très important chez nous.
Tout ça, c'est du filtéor, hein. Argent et filtéor, sa porcelaine de Limoges. Et de la vraie. Hein.
J'habitais dans une ferme et un château.
C'est là-haut. Là, les photos.
Alors, le château appartenait à la maison Marc, l'une des plus grandes maisons de vaisselle de Poitiers. Et dans le château, nous faisions de grandes fêtes. Et c'est là que ma maman nous apprenait à servir. Et j'étais petite. Et il y avait les sonneurs de trompe de chasse. Et mon papa, donc, était un grand sonneur de trompe de chasse. Et ma maman adorait faire des fêtes. Et c'était nous qui préparions tout. Déjà, avec le groupe folklorique, nous étions toujours amenés à recevoir les amis du vieux Poitou. Et ça existe toujours. Et ma sœur, pendant 3 ans, était la seule accordéoniste du groupe.
Et les chansons, elles racontaient quoi, alors?
Toutes les choses du pays. Par exemple, la mémé qui est en train de mourir. Une vache qui va vêler. Il y a les vendanges. Il y a surtout quand on coupait le blé. Alors ça, c'était magnifique, 2 à 3 jours de battage. Et il y a des ambiances parce que le paysan, bon ici, les paysans ne sont pas riches. Donc tout le monde est ouvert. Le facteur venait, c'était chacun son tour de nourrir le facteur. Par exemple, nous n'aurions jamais eu une personne âgée morte toute seule chez elle. Si nous la voyions fatiguée, on s'en occupait. Parce que tout être humain a le droit de vivre, mais en bonne harmonie avec l'autre.
Alors on y va. Profitez-en, c'est pas tous les jours les soldes. C'est les coups du bon. Vous êtes sur le marché de Châtellerault. De la compote, rien que du meilleur. Des pommes non traitées, du pilot des Charentes, du sucre de la Réunion et du sucre qui n'est pas traité et fait avec amour.
c'est bon. Oh, c'est que c'est bon de rire. Oh, punaise, c'est la vie, hein. Il n'y a pas à dire. Vous, vous êtes née où? Alors, dans la ferme.
Le château, il était à côté de votre ferme?
Oui, oui. Ben, toujours, il y a toujours là. En général, et même, il y avait avant une porte qui donnait des cuisines du château dans les cuisines de la ferme. Parce que c'était la dame de la ferme qui allait faire le ménage dans le château. Et puis, des fois, quand il n'y avait que très peu de monde, c'était la dame de la ferme qui faisait la cuisine. Quand, par exemple, la maison Marc, nous étions toujours la maison Marc, madame et monsieur Marc, venaient, par exemple, ils disaient, bon, est-ce qu'on pourrait avoir 3 poulets? Alors, il fallait les tuer, les plumer, les cuire. Et nous, par plaisir, nous servions à table. Nous faisions même, maman nous a appris à chanter des chansons qu'elle faisait et des pièces qu'elle inventait.
Pour vos patrons?
Oui, pour nos patrons. Oui, mais attendez, nous avions des gens riches mais simples. Et pour nous, c'était un honneur et un plaisir. Je ne le ferai plus. Si j'avais encore l'honneur de travailler avec ces gens-là, oui. Mais avec beaucoup d'autres, non. Même payé, je n'irai pas.
Le café.
J'écris toujours à tous mes patrons.
Vous ressortez des tasses?
Non, parce que les autres, elles étaient froides.
Ah.
Et je n'aime pas après quand c'est froid.
Elles n'étaient pas espillées.
Parce que j'ai eu 4 patrons, tant que ce qu'on appelait à cette époque-là, bonne à tout faire. Maintenant, on appelle Jean de maison. Mais à cette époque-là, c'est à tout faire, c'était aussi bien élever le bébé, aller faire les courses, faire le ménage, faire la cuisine. Et moi, j'ai toujours eu des patrons extraordinaires. De toute façon, j'aurais eu des patrons de merde, je n'y serais pas restée. Ah, pas du tout. Nous étions considérés. Et je trouve que ça, la considération n'a aucun prix.
Et vous habitiez où, alors, chez vos patrons?
Ah ouais, bien sûr, de 14 ans à 21 ans. Parce qu'il fallait que je garde mes petits. Et je trouvais que c'était merveilleux, parce qu'au lieu d'être à la ferme, habillée en paysanne, je me promenais avec mes petits en ville. Et mon patron m'avait dit, ainsi que madame, me disait toujours, Sylvette, bonne à tout faire, ce n'est pas un métier. Un jour, il faudra que vous changiez. Et ils ont demandé au proviseur du... Maintenant, c'est le collège, mais à cette époque-là, du lycée Descartes, si je pouvais entrer. Et je suis entrée.
Et vous, vous faisiez quoi au lycée?
Femme de ménage. Alors, je m'étais donnée, comme mes patrons qui m'avaient fait rentrer étaient professeurs agrégés, je m'étais donnée l'agrégation du balai, de la serpillière, et je nettoyais à fond.
Et vous, Sylvette, d'où elle vous vient, toute cette joie de vivre?
Je me dis que je ne peux plus subir.
Le poète a toujours raison.
Et je n'ai pas le droit de subir.
Qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Quand M. Jean Ferrat chante cette chanson magnifique, la femme est l'avenir de l'homme, il ne s'est pas trompé. La main tendue, le sourire, et ça c'est merveilleux ça, voilà tel que je conçois quelqu'un qui pense à l'autre. Et jamais en retour, je veux souci. Il faut être très ouverte à la vie. Et si ça ne plaît pas au voisin, ça ne le regarde pas. Je ne suis plus du tout la même à tout point de vue. Je me dis que je ne peux plus subir. Quand il vous arrive des emmerdements, c'est difficile à accepter. Donc il faut se battre pour l'accepter. Moi, je suis divorcée, donc je sais de quoi je parle.
Ah, vous êtes divorcée, vous?
Ah oui, c'est moi qui ai demandé le divorce et mon mari ne voulait pas. Je ne dis pas ce que j'ai subi, parce que... Enfin, 2 tentatives très graves de suicide. Bon, j'ai voulu mourir. 1 litre d'eau de vie, 6 mois de médicaments. Je m'en suis sortie. Mon fils m'a aidée. Enfin, m'a sauvée. Puis je dis, maintenant, je vais m'en sortir. 8 mois après, je recommence. Je dis, là, maintenant, c'est fini. Hein. Le bonhomme. Et moi, maintenant, je m'en sors. Et c'est Mme Simone Veil qui m'a aidée. Enfin, j'ai écrit Mme Simone Veil. Et Mme Simone Veil, enfin, m'a fait répondre. Et quand mon mari a reçu la lettre, ça... Ah, ben... Me dit, tu te rends compte? Et je vais être grave. Comme je suis divorcée, c'est moi la salope et la putain. Eh oui, ça ne se fait pas chez moi. Ça ne se fait pas de divorcer. Nous devons subir. Vous pouvez être violée, battue, cocu. C'est normal. C'est l'homme. Mais je ne pouvais plus. Et après, bon, ben, je me suis dit que la vie vaut quand même la peine d'être vécue. Alors je me bats. J'ai besoin de rire, j'ai besoin de m'extérioriser. J'adore danser. Souvent, quand je mets les danses irlandaises, j'ai les chaussures, j'ai tout, la robe, tout à godet, noir, avec plein de choses rouges. Alors je me les mets avec des collants rouges, chaussures noires. Ça se danse comme ça, toute droite. Ta, 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 ta. J'aime l'accordéon, j'aime le violon, j'aime la grande musique. Mais j'aime toutes les musiques du monde. Et s'il y a de la musique, c'est la beauté. C'est la vie.
Voilà, c'est ça.
Alors attention, le prêtre est à nous.
Là, on descend dans la cave.
Oui. C'est un pléonasme. Nous descendons. Oui. Alors, ici, il y a tout ce qu'il faut. Savoir donner. C'est pas d'être riche. Les pommes, on les a données. L'échalote, je l'ai acheté pas cher. Et les fleurs, c'est les fleurs du jardin. Et le bonheur de donner. Alors après, il y a tous les concerts, des asperges de mon neveu. J'ai un neveu qui fait des framboises, des asperges, du mouton. Et nous y allons et nous emmenons tous à manger et nous mangeons tous ensemble. Et ça, c'est un plaisir, un bonheur.
Merci Charlotte Perry et merci à Céline Hila pour la réalisation de ce reportage.